Radio Kapi. Oh, Kapi.
Quatorze morts et plusieurs biens emportés par les assaillants dans une incursion des rebelles ADF la nuit du dimanche à ce lundi dans la commune rurale de Boulongo. On signale un déplacement massif de la population de Boulongo à Kassindi et Beni. La rentrée parlementaire de mars a lieu ce lundi 15 mars. Elle sera consacrée essentiellement au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois conformément aux dispositions des articles 115, 117, 125 et 135 de la Constitution. Notre invité est le député national Daniel Ouma, premier vice-président de la commission droits humains de l'Assemblée nationale. En vacances parlementaires à Nitouri, il évoque dans ce journal la situation sécuritaire qui se dégrade davantage sur la route nationale numéro 27, reliant Bounia-Mahagi, précisément dans le territoire de Djougou. En territoire de Beni, 14 civils tués et des personnes portées disparues, parmi lesquelles des pygmées. C'est le bilan encore provisoire de l'incursion des rebelles ADF la nuit de dimanche à ce lundi dans la commune rurale de Boulongo. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la ville de Beni sur l'axe Beni-Kassindi. Sur place, on signale un déplacement massif de la population de Boulongo à Kassindi et Beni. Marc Marouf Fimbo pour des précisions.
Les sources locales renseignent que c'est la nuit, aux environs des 22h locales de ce dimanche, que ces ADF ont fait incursion dans la commune rurale de Boulongo, pendant que la population dormait déjà. Ces rebelles ont tué par machette 14 civils, comme le témoigne un habitant de Boulongo centre.
On vient de tuer des civils vers Moutilipi, un quartier situé en plus ou moins 1,5 km au centre commercial de Boulongo. On vient de tuer des civils, de la provisoire, et d'autres personnes ont été portées disparues. Mais aussi, l'ennemi a passé vers Bahassa. Il y a quelques pygmées qui ont été portées aussi disparues par ces ADF-là. Mais la situation vraiment est très compliquée. Toutes les activités sont paralysées depuis ce matin.
Après une opération silencieuse, ces rebelles ont tiré des coups de feu avant de se retrancher du centre commercial de Boulongo pour la forêt. Et ce sont ces coups de balles qui ont alerté la population du danger qui était au milieu d'elles. Ce lundi matin, les jeunes en colère manifestent dans le centre commercial de Boulongo avec les corps sans vie. À l'instant, un déplacement massif de la population de Boulongo s'observe, les uns en direction de Kassindi et les autres en direction de Beni. Les sources sur place à Boulongo ne renseignent que l'armée poursuit l'ennemi dans la forêt. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, un calme apparent s'observe depuis ce lundi dans la cité de Nyabiondo, plus de 100 km à l'ouest de Goma, en territoire de Masisi. Ce, après des violents affrontements qui ont opposé jusqu'à ce week-end les forces loyalistes aux combattants de l'APCLC de Janvier Kalahiri. Toutes les activités socio-économiques y restent paralysées et quand les marchés ne fonctionnent pas, les habitants de Nyabiondo sont actuellement concentrés, entre autres, autour de la base de l'ONG Médecins Sans Frontières. Le point avec Gabriel Wamenya.
Les sources locales affirment que les affrontements qui ont éclaté depuis le début de la semaine dernière se sont poursuivis jusqu'à hier dimanche dans la cité. Ces combats ont entraîné un mouvement massif de déplacement des populations. Nos sources précisent que ces déplacés sont concentrés dans les écoles et à la base de l'ONG Médecins Sans Frontières au centre de Nyabiondo, alors que d'autres habitants se seraient dirigés vers Kaanja et Kachebere en territoire de Walikale. Pour l'instant, il n'y a pas un bilan disponible de ces combats, affirme nos sources. Mais Nyabiondo ressemble à une cité fantôme. Toutes les activités socio-économiques sont paralysées. Écoles, marchés, magasins et boutiques sont fermés. Jusqu'à ce lundi matin, des tirs nourris à l'arme lourde étaient toujours entendus autour de la cité, ce qui suppose, selon nos sources, que les forces loyalistes étaient toujours à la poursuite de l'ennemi qui aurait pris la direction de Luibo. Rappelons que les combattants de la PCLS sont actuellement affaiblis à la suite de l'offensive lancé par les FRDC depuis le début de ces mois. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Je le disais en titre, ouverture ce lundi à Kinshasa de la session parlementaire ordinaire de mars. Elle sera consacrée essentiellement au contrôle parlementaire ainsi qu'à l'examen et au vote de certaines lois, conformément aux dispositions des articles 115, 117, 125 et 135 de la Constitution. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, les deux chambres du Parlement sont désormais dirigées par des nouveaux bureaux issus de la nouvelle majorité, composée des députés et sénateurs ayant adhéré à l'Union sacrée pour la nation. Mais quelles sont les matières prioritaires examiné au cours de cette session, en plus de l'investiture du gouvernement, Michel Kifindangoy.
Tout d'abord, L'Assemblée nationale procédera à l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, issu de la nouvelle majorité parlementaire. Mais la publication de l'équipe gouvernementale tarde encore suite aux divergences persistantes entre les nouveaux alliés sur notamment la répartition des ministères, renseignent certains députés de l'Union sacrée. Outre l'investiture du gouvernement, les deux chambres du Parlement devraient s'attaquer aux réformes prioritaires, dont celle du système électoral. Ce qui a justifié les échange la semaine dernière entre le président de l'Assemblée nationale et celui de la CENI Corneille Nangaa afin d'envisager ces réformes avant la tenue des élections en 2023. Il s'agira notamment d'examiner les rapports de la CENI, la proposition de loi Lutundula sur la réforme de la CENI, mais aussi celle du G13 portant révision de la loi électorale. Le Parlement devra donc lever l'option sur la nécessité ou pas de procéder au recensement de la population avant la tenue des élections. Plusieurs autres réformes, dont la révision de la Constitution, pourraient être initiées au cours de cette session.
À Boutembo, la situation épidémiologique d'Ebola évolue bien ces derniers temps. D'après Guy Makelele, chef intérimaire de l'antenne locale de la division provinciale de la santé, aucun cas positif n'a été enregistré dans la région depuis 13 jours. Par contre, les cas de Covid-19 continuent d'augmenter. 16 nouveaux cas ont été notifiés dans la DPS Boutembo ces trois derniers jours. Guy Makelele l'a dit dans un point de presse tenu ce lundi à l'hôtel de ville. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florida Kahambo.
Qu'en est-il de la maladie à virus Ebola? À ce jour, la province du Nord Kivu enregistre 12 cas, dont 11 cas confirmés pour Ebola et un probable. Nous avons enregistré 6 décès, dont un probable. On a 4 guéris, dont 3 déchargés. En ce moment-ci, nous avons 2 personnes au niveau du 7h. Alors, pour la zone santé de Boutembo, ça fait 13 jours qu'on est 100 cas confirmés. Pour la zone santé de Biéna, ça fait 20 jours, 24 jours, et Moussénéné, 29. Les aspects Covid. Pour les 3 derniers jours, au niveau de l'antenne DPS, nous enregistrons 16 cas confirmés. Dont 6 dans la zone santé de Katoa, 2 dans la zone santé de Boutembo, 2 à Moussénéné, 2 à Loubero, 2 à Vuovi, un cas confirmé à Beni et un dernier cas confirmé à Kiondo. La létalité au niveau de l'antenne reste toujours élevée à 15,3%. Le taux de positivité des tests Covid au niveau de laboratoire de Boutembo, c'est à 8,5%.
Direction Sud Kivu, la situation de la pandémie à Covid-19 reste inquiétante mais pas alarmante. C'est ce qu'affirme le ministre provincial de la Santé, M. Cosmos Kusimwa Bishisha, ce lundi au micro de Radio Okapi. Il confirme les 6 nouveaux cas depuis dimanche et affirme que ces derniers sont bien pris en charge dans les différentes zones de santé. Une occasion pour M. Bishisha de rappeler à la population d'être aux aguets car la maladie à Covid-19 est encore parmi nous. Cosmos Kusimwa Bishisha au micro de Rachel Kiesembangu.
La situation, elle est encore maîtrisable. C'est vrai que nous sommes en train d'enregistrer des nouveaux cas confirmés, comme hier dimanche, nous avons eu 6 nouveaux cas confirmés, dont une personne réside dans la zone de santé de Kadutu, 3 personnes dans la zone de santé d'Ibanda et 2 personnes dans la zone de santé de Fizi, ce qui nous ramène aujourd'hui à un cumul de 730 cas confirmés de la COVID, une situation qui est encore inquiétante mais non alarmante. Pour l'instant, la prise en charge du malade elle est bonne, je peux le confirmer, et c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui plus de 600 guéris. Nous avons des équipes qui sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les messages à la population, aujourd'hui, la grande arme d'élite contre la COVID reste la prise de conscience collective, comprendre que le virus est avec nous, il continue à circuler et nous devons tous travailler pour arrêter sa circulation.
Au Kasaï central, les portes de l'épée Chipunza, conventionné kimbanguiste du secteur de Mutefu dans les territoires de Kazumba, sont fermées depuis lundi 8 mars dernier. D'après la Lisadel, c'est l'initiative d'un chef d'un village qui ne tolère pas la présence du chef de cet établissement scolaire. L'administrateur du territoire dit s'investir pour la reprise des activités dans cette école. Des détails avec André Kambala Moujanaï.
D'après la Lizadel Kazumba, l'épée Chipunza est implantée dans le village Mobanga du secteur de Moutefou depuis près de 40 ans. Et depuis, elle est dirigée par un directeur non natif du coin. Cette situation ne plaît pas au chef Mulumba qui, selon nos sources, souhaite d'une part le remplacement du directeur par un originaire. Et de l'autre, la même autorité traditionnelle digère mal l'ouverture d'une action disciplinaire par la coordination kimbanguiste à l'endroit d'un enseignant au motif qu'il aurait épousé une seconde femme. Fort de ces deux raisons, le chef Mulumba, en compagnie de quelques acolytes, a procédé lui-même à la fermeture des portes du bureau du directeur des guérissants jusqu'à nouvel ordre, élèves et enseignants. Contactés, la MSAT du territoire de Kazumba confirme l'information. Jean-Marie Lusamba dit avoir envoyé le chef de secteur de Moutefou avec quelques policiers. Ceux-ci n'ont pu résister à la colère des administrés du chef Mubanga. L'autorité territoriale ajoute avoir demandé au chef de rouvrir les portes pour permettre à l'école de fonctionner. En cas de récidive, renchérit-il, cette autorité traditionnelle en aura pour son compte. Jusqu'ici, aucun écho ne nous parvient de ces villages. De Kananga, André Kambala, Radio Okapi.
Dans la province du Kwango, l'inspecteur provincial IPP de la province éducationnelle du Kwango 1 à Kenge signale une forte déperdition des élèves finalistes aux examens d'État de l'année scolaire 2020-2021. Justin Dieudonné Vouvou attribue cette situation au non-paiement des frais des fiches par certains parents qui, selon lui, ne croyaient plus à la reprise des cours après 2 mois de fermeture des écoles pour lutter contre la deuxième vague de la Covid-19. Il évoque aussi comme autre cause de cette déperdition le déplacement de certains élèves pendant ce temps et ils n'ont pas pu rentrer pour étudier. Justin Dieudonné Vouvou, IPP du Kwango 1, a été joint par Irène Boma.
C'est fait qu'il y a une déperdition par rapport aux finalistes. Nous sommes en train d'y travailler. Je crois que d'ici quelques jours, on pourra avoir les chiffres exacts. La déperdition est tout à fait un peu normale parce que beaucoup ne croyaient plus à la reprise des cours. Alors, certains parents s'étaient démobilisés pour le paiement de frais de fiches. Maintenant que nous avons trouvé que nous étions déjà en retard et qu'il fallait accélérer, bon, beaucoup de parents n'arrivent pas à suivre le rythme. Mais pour les classes montantes, le problème ne se pose pas parce que au niveau primaire, c'est la gratuité, tandis qu'au niveau secondaire, bon, les parents vont continuer à payer progressivement. Mais pour ce qui est de fiches, il y a un temps qui est donné. Il y a des enfants qui étaient sortis du pays pour peut-être aller vers la frontière là-bas, de l'Angola. Il y en a d'autres qui sont allés à Kinshasa. Maintenant qu'il y a la reprise, ils n'ont pas pu regagner. C'est tout ça qui fait partie de la déperdition.
Au Kasaï oriental, hausse des prix de la bière en Bujimaï depuis le week-end dernier. La bouteille de bière Simba Tembo d'Opel Escol, qui coûtait la semaine dernière 2500 francs congolais, se vend actuellement entre 4000 et 5000 francs congolais. D'après les grossistes de ces produits en Bujimaï, la rupture des stocks serait à la base de cette hausse. Mais déjà, les répercussions se font sentir dans les chefs des consommateurs. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les terrasses sont quasiment vides ce lundi. Les consommateurs de ces produits passent d'une terrasse à une autre pour chercher comment étancher la soif. Quelques consommateurs trouvés au Nganda Kingakati manifestent leur inquiétude suite à cette rupture de la bière en Bujimaï. Explication de John Kongolo.
Nous avons un grand soleil. Nous sommes habitués, après avoir travaillé, vous voulez vous délasser, vous mettez quelque part pour prendre une bière. Donc il n'y a pas moyen. Il n'y a même pas la bière. Mais vous pouvez avoir l'argent, mais la bière, vous allez en trouver où? Aujourd'hui, vous voyez 2 bières, 3 bières là-bas, mais vous avez soif, mais vous ne savez même pas en prendre. L'eau, on peut étancher la soif, bien sûr, mais la bière, elle a aussi une part dans le corps.
Les revendeurs de ce produit en Bujimaï étaient déjà habitués à une livraison à domicile de la part de leurs grossistes. Mais depuis le vendredi dernier, les revendeurs sont debout et font le tour des différents dépôts, tel qu'explique ici Dieudonné Kongolo.
On a acheté le casier de Tembo ou Simba à 48 000 francs. Mais pour le moment, à 55 000. C'est rare, ça ne se va même pas pour le moment. Nos clients achetaient une petite bouteille de Tembo à 2500. Ça mène à 3000. Même à 3000, là, pour voir ça, c'est difficile.
Cette rupture des stocks de la bière est également ressentie dans la province sœur de l'Omami, ravitaillée régulièrement par le Kasaï oriental, qui connaît actuellement une difficulté d'approvisionnement. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Bénin, le Front pour la restauration de la démocratie a organisé hier dimanche un meeting géant à Parakou pour exiger la libération de l'ancienne ministre Rekia Madougou, originaire de cette ville. Cette femme politique de 46 ans est depuis le 5 mars en détention provisoire pour financement du terrorisme après avoir vu sa candidature à la présidence du 11 avril prochain rejetée. La situation des hôpitaux d'Île-de-France au Covid-19 n'est pas encore hors de contrôle, mais elle va l'être, a estimé lundi 15 mars Bruno Rioux, directeur médical de crise de l'assistance publique hôpitaux de Paris, cité par l'AFP. J'entends beaucoup dire qu'une semaine sans confinement est une semaine gagnée. Je n'ai pas la même analyse. Pour moi, c'est une semaine perdue, a déclaré le professeur Rioux sur France Inter, en pointant les conséquences considérables, notamment en termes de décès, des séquelles pour les malades et de déprogrammation pour d'autres.
L'invité.
Nous recevons le député national Daniel Ouma, premier vice-président de la commission droits humains de l'Assemblée nationale. En vacances parlementaires à Nitouri, cet élu du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, évoque la situation sécuritaire qui se dégrade davantage sur la route nationale numéro 27, reliant Bounia à Mahagui, précisément dans le territoire de Djougou, où l'on assiste ces derniers jours aux affrontements entre l'armée et les assaillants de la CODECO URDPC. Il s'entretient avec Martial Kiz. Biamungu.
Honorable Daniel Ouma, bonjour.
Bonjour.
Quelle lecture faites-vous de la situation sécuritaire actuelle dans les territoires de Djougou, principalement sur la route nationale numéro 27?
C'est choquant de voir, après plusieurs mois, que la situation de la sécurité de la population de l'Ituri, principalement sur la RN27, dans les territoires de Djougou, puisse connaître une recrudescence. Pourquoi ? Parce que il a eu un moment donné, la milice CODECO a signé des actes d'engagement unilatéral, bien évidemment, pour adhérer au processus de paix. Mais fort malheureusement, le gouvernement de la République, la présidence de la République n'a pas pu accélérer ces processus. Et voilà qu'aujourd'hui, ces éléments de CODECO ont repris les armes et nous assistons à des affrontements entre, n'est-ce pas, nos forces loyalistes et ces éléments de la milice CODECO. Donc, la population itourienne est en train de payer un lourd tribut de l'incompétence, de l'insouciance, n'est-ce pas, des autorités qui gèrent le pays. Voyez, si au niveau du sommet de l'État, on avait pris cette situation à bras les corps, je vous dis aujourd'hui, l'Ituri, principalement Djougou, serait pacifié. Mais parce que les gens sont occupés par autre chose, la pensée de ceux-là qui nous dirigent, la pensée du chef de l'État est ailleurs que sur la question sécuritaire, voilà que l'Ituri vient de sombrer encore une fois dans cette insécurité, dans cette guerre interminable.
Honorable, vous êtes membre de la commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette résurgence de l'insécurité sur cette tronçon après l'accalmie observée?
Je rappelle encore une fois, le 30 juin 2019, lorsque le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est passé ici à Nitouri. Il s'est adressé à la population itourienne représentée par celle qui habite Bounia devant la tribune. Il a dit, je cite, « Je ne me sentirai jamais président de la République si l'Ituri en particulier et l'Est en général n'est pas pacifié. » Je rappelle encore une fois cette promesse. C'était une parole d'un chef de l'État qui a une force de loi. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, l'Ituri n'est toujours pas pacifié.
Vous êtes député national, la rentrée parlementaire c'est pour ce 15 mars. Quelle est votre contribution, vous comme parlementaire, pour que les prochains gouvernements prennent en compte les problèmes sécuritaires de l'Ituri et trouvent des solutions définitives quant à ça?
Ce gouvernement, avant d'être investi, si cela ne dépendait que de moi, il doit nous dire, donc Monsieur Jean-Michel Sama, doit nous dire dans combien de temps, avec un timing précis, son gouvernement, bien évidemment sous le leadership du président de la République, compte en finir avec cette situation de l'insécurité. Personnellement, si cela n'est pas fait, je ne vois pas pourquoi investir ce gouvernement. Aujourd'hui, on peut bon parler du social, mais on ne peut pas avoir un social qu'il faut aussi longtemps la situation sécuritaire n'est pas rétablie.
Pour terminer, Daniel Oumar, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour mettre fin à ce cycle infernal du phénomène CODECO à l'Ituri?
la Codeco est riche de barrières, perçoivent des taxes, a institué d'ailleurs, la Codeco a institué des taxes et l'applique sur la RN27. Au vu et aussi, que ce soit de la police nationale congolaise, au vu et aussi des forces armées de la République, au vu et aussi de l'administration publique. Donc, c'est une situation de non-État que nous vivons en Ituri. Ce sont les groupes armés qui font la loi, qui administrent la portion du territoire de l'Ituri, enrichent des taxes et perçoivent de l'argent des citoyens congolais. Et tout le monde ne dit rien. Ceux qui sont censés protéger ces Congolais, ils ne disent rien. Ils observent, eux-mêmes assistent impuissamment, n'est-ce pas, à cette pratique instituée par la Codeco. Nous demandons au chef de l'État, il faut chercher de l'argent pour accélérer le processus de paix. La milice Codeco avait déjà fait un pas, c'est-à-dire manifester une volonté d'adhérer au processus de paix. Si on les avait pris dans les temps, cette situation n'allait jamais voir le jour aujourd'hui. Donc, il faudra que le processus de paix soit accéléré. Nous ne devons pas attendre toujours le partenaire.
Honorable Daniel Ouma, merci.
Merci beaucoup.
Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Alain Irung était à la supervision. Élisée Chikota à la coordination. Je me nomme Nico Kalambay. Excellente suite de nos programmes sur Radio Okapi.